Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout, je suis un peu encombré. Et j'ai pas pu téléphoner à Paul pour qu'il me remplace parce qu'il est parti. Alors, cette prédication aura deux parties. En partie en raison de mes problèmes vocaux, mais aussi parce que ça vaut la peine de le faire en deux fois. Donc je m'excuse pour ceux qui ne seront pas là, peut-être la fois prochaine. Voilà, en tout cas, merci Pascal d'avoir fait mon introduction. Je vais essayer de faire la suite. Lorsqu'on lit le récit du péché, du premier péché, le péché d'Adam et Ève, on réalise une chose. C'est que Satan a mis en œuvre une entreprise de séduction. Il a particulièrement bien préparé son approche de l'homme pour finalement l'amener à faire un acte qui a eu un retentissement, vous le savez, dans la vie de tous les hommes et les femmes sur la terre depuis ce jour-là. La conséquence de cette action de Satan, de cette séduction, c'est que l'homme déchu est aussi un homme séduit par nature. C'est-à-dire que nos enfants naissent, nous-mêmes sommes nés dans ce qui a été le piège d'Adam et Ève, c'est-à-dire la séduction. Ce qui affecte notre sens des réalités, et notamment des réalités spirituelles en ce qui concerne Dieu. Par contre, ce péché originel n'a pas rendu l'homme irréligieux. On le verra après. Caïn et Abel ont montré qu'ils avaient de la religion. Et aujourd'hui même, on peut le dire, l'homme, de façon générale, est religieux. Vous me direz, oui, il y a bien des athées. Il y en a quelques-uns. Mais on s'aperçoit que, finalement, les athées existent surtout dans les sociétés soi-disant évoluées, rationnelles, là où on pense et on réfléchit beaucoup, et donc il semblerait que plus on pense et plus on réfléchit, plus on est bête, quoi, en fait, parce que il n'y a pas de société sur Terre qui soit irréligieuse, aucune. Il n'y a que chez nous qu'on a inventé ça, et apparemment ce serait donc un progrès, une évolution. Mais même les athées, de toute façon, si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils croient beaucoup en eux-mêmes. Et le gros péché de l'homme, c'est bien celui-là, c'est de se mettre à la place de Dieu sur le trône. Donc voilà la religion des athées. Depuis ce péché, Satan se veut investi d'une grande œuvre qui est d'empêcher l'humanité de se tourner vers Dieu et d'autre part d'empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans la réalité de la foi. Comme j'ai déjà dit, on aurait pu penser qu'avec l'érudition et la culture, l'homme se serait rapproché de Dieu. Mais en réalité, donc, c'est l'inverse qui se produit. Plus on réfléchit et plus on s'éloigne de Dieu. Mais la subtilité de Satan, donc ce n'est pas d'essayer de produire des athées. La subtilité de Satan, c'est d'essayer de produire des croyants qui arrive jusqu'à la porte de la foi. Des gens qui ont des doctrines, qui ont des lignes de conduite, des gens qui ont des rites et qui, en cela, sont satisfaits de leurs pratiques religieuses. Des gens qui font profession de foi chrétienne et qui se satisfont de ces choses-là. Donc, Satan recherche à institutionnaliser la foi, à la rendre accessible de façon artificielle, c'est-à-dire par l'apprentissage, et faire en sorte que les gens se satisfont de ces situations-là. Alors, quand Jésus rencontrait les Juifs, il rencontrait ce type de personnalité. Les Juifs qui faisaient profession d'aimer Dieu, dans Jean 8, ils disaient à Jésus, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Dieu est notre Père. C'est ça qu'ils disaient à Jésus. Sauf que, ils ne se rendaient pas compte qu'en parlant à Jésus, ils parlaient à Dieu. Et que lui savait parfaitement que eux étaient illégitimes dans leur pratique. Récemment, j'entendais dans nos réunions, je crois que c'était mardi, quelqu'un qui disait « Les catholiques et les protestants ont le même Dieu ». Alors, on n'aurait sans doute pas dit cela à l'époque de la Réforme. On aurait eu des problèmes sérieux. On aurait été protestant ici, à l'époque de la Réforme, on aurait dit ça, on se retrouvait sur la grande place, sur un bûcher. Et les catholiques, évidemment, n'auraient pas dit qu'ils ont le même Dieu que les protestants. Mais aujourd'hui, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est facile de le dire. C'est facile même d'étendre ça. Et de dire les protestants, les catholiques, les juifs, les musulmans, les témoins de Jéhovah et tous les autres ont le même Dieu. Ça choque personne. Et c'est même recherché dans la société. On va de plus en plus, comme disait Pascal, nous interdire de dire que Jésus-Christ est le seul par qui nous puissions être sauvés. Et si on peut le dire aujourd'hui, c'est parce que justement, tous les ismes et les istes, donc je parle des protestantismes et des catholicismes et des évangélismes et des pentecôtismes et tous les ismes s'institutionnalisent, s'organisent. Je ne dis pas que l'institutionnalisation et l'organisation est nécessairement mauvaise, mais je dis que, ayant commencé dans la foi, les choses finissent toujours dans la sclérose. C'est l'histoire de l'Église, si vous retracez les événements depuis le début, l'histoire de l'Église terrestre, de l'Église charnelle, est de cet ordre-là. Chacun met en place son précaré. Vous savez ce que c'est un précaré ? Non ? C'est un terme militaire. C'est-à-dire que chacun s'organise avec ses propres défenses, avec sa propre organisation interne, et voilà, c'est un camp retranché, et là, je suis chez moi. Tant que je suis à l'intérieur, tout va bien. Lorsque je suis à l'extérieur, c'est l'étranger. Chacun organise son précaré et fournit à ses fidèles de quoi satisfaire des besoins religieux et de quoi affronter la vie avec ce sentiment religieux, fantôme, je dirais, ce reste, suite à la chute, ce reste de pensée de Dieu, eh bien, est satisfait juste par cette institution qui est devenue l'Église charnelle. Mais est-ce que cette Église est capable de répondre aux besoins spirituels de ceux qui recherchent Dieu? Et donc c'est bien là que se trouve l'enjeu majeur de Satan. C'est de fournir aux hommes de quoi satisfaire leur esprit religieux en leur donnant l'illusion de la foi, afin qu'ils ne découvrent jamais la régénération de l'être ou la nouvelle naissance. Voilà donc en quelques mots dépeint la condition de l'homme irrégénéré aujourd'hui. Il est religieux par intuition et séduit de par sa nature. Donc l'homme reste religieux. Et si on va dans Genèse chapitre 4, puis on regarde un peu le récit de Caïn et Abel. Verset 3 du chapitre 4, je vais le lire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, c'est terrible comme histoire. C'est l'histoire du premier meurtre. Mais Caïn n'a pas été il était peut-être le premier meurtrier, mais il n'a pas été le dernier. D'autres ont tué et pourtant n'ont pas été désapprouvés de Dieu. Au final, évidemment, Dieu n'a pas approuvé leurs gestes, mais ils étaient agréables aux yeux de Dieu, et on peut citer David. Et Caïn n'était pas un homme qui n'aimait pas Dieu. Et le problème, c'est que son geste fait qu'on a ce sentiment immédiat. Caïn détestait Dieu. Or, on lit que Caïn fit à l'Éternel une offrande. C'est Caïn d'abord qui fit une offrande à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il prit le soin de construire un autel et d'aller chercher dans ses récoltes sans doute ce qu'il y avait de plus beau à offrir. Ce qu'il voulait, c'était montrer sa vénération à Dieu. Il ne voulait pas que Dieu pense qu'il l'ignorait complètement. Et donc, il a pris l'initiative. Il a déposé les fruits de la terre sur cet autel. Les plus parfaits en forme. Les plus jolis de sa récolte. Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Le problème, c'était pas l'offrande. C'était pas que les fruits étaient moches, ils étaient pourris, ou qu'il y avait un problème particulier avec les fruits. Il est dit, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, et de fait, sur son offrande. Vous comprenez, c'est pas pareil. Après, il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc le problème n'était pas réellement la nature de l'offrande. Le problème, c'était l'homme lui-même. C'était ce que Dieu pouvait lire dans chacun de ces deux hommes. Et il lisait chez Caïn quelque chose qui ne convenait pas et qui ne pouvait pas apprécier, pour lequel Dieu ne voyait pas de valeur. En fait, ça nous est révélé dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Il nous est dit que Caïn était du malin. Et il tua son frère. Cette histoire entre Caïn et Abel, c'est beaucoup plus qu'un fait divers familial. N'est-ce pas? Si ça se passait aujourd'hui, on aurait un article dans les journaux. Un frère a tué son frère. Et puis point. Mais c'est beaucoup plus que cela. Cette histoire, c'est la première mention d'un grand principe biblique qu'on peut déclarer de la façon suivante. Le religieux tue le spirituel. Ce qui est de l'ordre de la religion tue le spirituel. Il y a un verset à peu près identique dans les psaumes qui dit que le méchant forge des plans contre le juste. Je ne sais plus quel psaume, ça me vient comme ça. Et c'est ce même principe que Jésus démontrait aux Juifs qui le questionnaient dans Jean 8. On peut aller dans le chapitre. Jean 8, verset 40. Et je suis sûr que Jésus pensait à l'histoire de Caïn et Abel lorsqu'il parlait là aux Juifs. Donc je faisais allusion à cela tout à l'heure. Nous ne sommes pas... Alors, pardon. Mais maintenant, donc Jésus parle aux Juifs, « Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. » Alors, ce principe s'est vérifié dans toute l'histoire du christianisme. N'est-ce pas? Si vous intéressez à l'histoire de l'Église, et certains d'entre nous, on a pu voir cela, et si vous essayez de retracer et de distinguer l'Église de Dieu et l'Église de façon générale, l'Église des hommes, de façon imparfaite quand même, mais on peut comprendre où se trouve l'Église de Christ en se posant la question, où est son meurtrier? Qui est son meurtrier? Et si vous analysez toute cette histoire de l'Église, eh bien vous voyez, et ça commence déjà dans les épîtres, la persécution, ceux qui sont persécutés sont en général ceux qui connaissent Dieu avec leur cœur. C'est les gens remplis de foi, qui sont persécutés par des gens qui font profession de foi. C'est très courant. N'est-ce pas? Et si on analyse l'histoire comme ça, alors on n'est pas tenté de faire des clivages protestants-catholiques, mais on comprend que partout, dans diverses situations, il y avait des hommes qui étaient portés par la foi en Dieu et qui, lorsqu'ils se levaient pour prêcher, y compris chez les catholiques, eh bien, systématiquement, ils étaient anéantis par d'autres qui faisaient profession de foi d'aimer Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ vivait lorsqu'il était sur la terre. Je viens pour vous dire la vérité et vous cherchez à me faire mourir. C'est donc ce grand principe qui sous-tend dans l'histoire de Caïn et Abel. Le religieux se précipite sur celui qui est approuvé de Dieu pour l'anéantir, parce qu'il est du malin. L'apôtre Paul, dans ses lettres, et notamment dans la lettre aux Corinthiens, dans les lettres aux Corinthiens, était très conscient du même principe. Et si nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et chapitre 2, ça ce sera vraiment la partie sur laquelle nous travaillerons la prochaine fois, mais je vais commencer déjà. L'apôtre Paul était conscient, à cause des problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe, n'est-ce pas, Chloé avait écrit à l'apôtre Paul disant « Il y a des problèmes chez nous, il y a des difficultés, il y a des divisions. » Et l'apôtre Paul était conscient, en arrivant, de ces problèmes, de ces tensions qui existaient entre le religieux et le spirituel. Et c'est étrange de lire qu'au départ, il commence la lettre de cette façon, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au départ, l'apôtre Paul ne distingue pas qui que ce soit dans l'Église. Il salue tout le monde, tous appelés saints. Il ne soupçonne rien. Ça rappelle la parabole de bon grain et de livret, où l'Église est, pas nécessairement l'Église, ça parle du monde, mais on peut le réduire à l'Église, eh bien, où bon grain est semé, dans la nuit vient un ennemi, vient semer, livrer, et les deux croissent ensemble. Et l'apôtre Paul savait cela, que dans une assemblée, les deux croissent ensemble. C'est systématique. On ne peut pas faire autrement, et il n'appartient pas à qui que ce soit d'essayer de faire la distinction entre les deux. Et l'apôtre Paul ne fait pas la distinction entre les deux. Mais il sait que parmi tous ceux qui professent Dieu, tous ne sont pas de vrais croyants. Et d'une certaine manière, il dit c'est normal. Il faut qu'il en soit ainsi, et ça on le lit au chapitre 11, au verset 19. Il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Jésus est venu sur la terre pour beaucoup de raisons, et une de ces raisons. Il le dit dans Jean 9, 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » Pour que ceux qui voient pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9 vient après Jean 8. Jean 8 parlait à des Juifs qui pensaient voir, comme je vous l'ai dit, qui étaient convaincus que leur Dieu était le Dieu d'Israël et qu'ils adoraient le bon Dieu. C'est ceux qui pensaient voir. Et Jésus est venu pour que ceux-là ne voient plus. Et pour que ceux qui pensaient ne rien voir, les pauvres en esprit, pour que ceux-là voient. Et donc par là, Jésus est très clair. Et il dit, c'est comme s'il disait, je ne viens pas pour vous apporter une autre religion. Je ne viens pas pour vous apporter une autre façon d'être relié à Dieu. Hein, c'est ça, religion, religaré, ou ligaré, donc qui est lié à. On peut être lié à plein de Dieu. Et donc Jésus dit, je ne suis pas venu vous amener d'autres liens vers Dieu. Mais je suis venu pour amener la vie dans la mort. Je suis venu pour apporter la lumière dans les ténèbres. Je suis venu pour apporter la vérité là où tout a été faussé. Je suis venu pour faire un contraste. C'est cela que Jésus est en train de dire et d'accomplir, rien que par sa présence au milieu des hommes et des femmes pécheurs, rien que sa présence parle de cela, mais aussi toutes ces paroles qu'il dit ont un grand but, c'est d'apporter un contraste entre ce qui est du vrai, ce qui est de l'ordre de la vérité, et ce qui est de l'ordre du mensonge, et qui est issu, comme on l'a vu, tout droit du péché originel. Alors, quel était le problème des Corinthiens? Quel était le problème avec ces divisions? Le grand problème, c'était l'orgueil. C'était lié à des problèmes d'ego. Hein, on peut le lire, mais mes frères, verset 11 de 1 Corinthiens 1, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Il se chamaillait pour des problèmes de doctrine, pour des problèmes de qui va être baptisé par qui. Ah non, moi je ne veux pas être baptisé par lui, je veux être baptisé par lui. Sans doute que ça faisait plus spirituel d'être baptisé par l'un plus que par l'autre. Les vérités étaient plus ou moins bien dites par certains prédicateurs. Et en réponse, l'apôtre Paul leur dit, vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié la centralité du message de la croix. Au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Jésus ne baptisait pas non plus. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Verset 23. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous, nous prêchons Christ crucifié. Et il conclut au verset 29. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et c'est là le message que Paul leur donnait. Vous vous chamaillez parce que vous êtes orgueilleux. Parce que les choses de Dieu, la sagesse de Dieu, vous l'orientez vers vous-même. Et en faisant cela, vous oubliez la centralité du message, qui est le message de la croix. Dans toute cette partie, toute la deuxième partie du chapitre 1 et une partie du chapitre 2, l'apôtre Paul parle de la sagesse humaine. Et il s'attaque à cette sagesse humaine. Il s'attaque à ce qui vient dans le discours et dans le fonctionnement de cette Église et qui n'est pas de Dieu. Verset 17 à nouveau. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage. Verset 20, 19. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et on peut continuer, chapitre 1, verset 1 du chapitre 2. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et au verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de sagesse à croire en Dieu et avoir foi en Dieu. Mais il dit qu'il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse humaine, qui est la raison de vos problèmes. C'est cette sagesse-là qui vous cause des divisions. Et il y a la sagesse d'en haut. Celle qui est incompréhensible à l'esprit humain, à la compréhension humaine. Celle que l'homme, même s'il peut la penser, la réfléchir, l'analyser, la travailler, la philosopher ou quoi que ce soit d'autre, finalement reste incompréhensible, c'est-à-dire impossible à prendre. Impossible à prendre avec soi, à porter en soi, pour l'homme, par l'intelligence seule. Et là, il parle, chapitre 2, verset 6, cependant, cette sagesse n'est pas une sagesse, cette sagesse est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est d'avant. Elle est d'avant même le péché originel. Ni des chefs de ce siècle. Il ne parle pas là des présidents. Il parle de ceux qui sont des autorités de toutes sortes, de tout poil. Dans tous les domaines, aujourd'hui, nous avons des chefs. N'est-ce pas? Ils ont des petits trucs rouges, là, en général. Ça s'appelle la Légion d'honneur. Il y en a beaucoup des comme ça. Eh bien, il ne s'agit pas de la sagesse de ces chefs-là qui vont être anéantis. Il s'agit de la sagesse de Dieu, verset 7, mystérieuse, cachée. Il s'agit, verset 9, de ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et là, le cœur de l'homme, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, avec ça. Qui ne sont pas montés à l'intelligence spirituelle de l'homme. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, Paul aussi réalise qu'il y a deux principes qui se côtoient en permanence. Et là, en l'occurrence, une sagesse charnel et la sagesse d'en haut, qui est la sagesse de Dieu. Paul distingue donc ces deux sagesses. Il y a celle que lui prêche, qui est la sagesse qui est de révélation divine. Perdu mon verset. Bref, cette sagesse qui est de révélation divine et cette sagesse qui est cette intelligence des sages, de ceux qui savent, les sages du monde, qui est destinée à flatter l'ego. Verset 10 de chapitre 2. Alors, attendez. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà donc la sagesse d'en haut. Donc, la sagesse divine, la sagesse d'en haut, glorifie Dieu. La sagesse humaine glorifie l'homme. Voilà le problème des divisions. Et donc, ces deux sagesses cohabitent. Il y a celle que j'ai appelée la sagesse de l'être religieux, donc qui possède une sorte de filiation charnelle avec les choses spirituelles, et on va faire un tout petit point sur cela, sans pour autant vivre dans la réalité spirituelle. Et il y a la sagesse de l'être spirituel, qui est l'enfant légitime de Dieu et qui est nourri spirituellement par la révélation. Notamment la révélation que Pierre a eue. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la sagesse charnelle qui t'a révélé ça. Ce n'est pas parce que tu es particulièrement intelligent. On dit de Pierre qu'il était bête. Je ne suis pas vraiment convaincu qu'il était bête. Il a écrit des choses de haut niveau. Mais Il était, on va dire, plutôt quelqu'un qui était dans l'action. C'était, voilà, un fonceur. Pierre, c'est pas toi qui as trouvé ça. Mais il aurait dit la même chose à l'apôtre Paul. C'est le Père qui te l'a révélé. J'ai dit, la sagesse de l'être religieux est une sorte de filiation charnelle avec les choses spirituelles. Et là, si on peut juste faire un point, aller retourner dans Jean 8, où j'ai découvert, on va dire ça, parce que je ne le savais pas avant. Une distinction que Jésus fait en termes de vocabulaire. Peut-être que tout le monde le sait et que moi je viens de le découvrir, mais ce n'est pas grave. Ici on lit donc Jean 8, verset 37. Non, je vais lire avant, je vais lire un peu toute l'histoire. Nous sommes, verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham !» Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Je vais m'arrêter là. Verset 37, il dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Or ici, le terme « postérité » est traduisible par semence. Hein? En grec, c'est sperma. Ensuite, il leur dit, au verset 39, si vous étiez enfant d'Abraham, mais il vient de leur dire, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Et là, il leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ici, enfant se traduit par technon, qui signifie descendant légitime. Donc, je sais que naturellement, d'un point de vue physique, vous êtes des enfants d'Abraham. Mais après, il les reprend sur un terme. Mais si vous étiez vraiment des enfants légitimes, et là, évidemment, il parle de choses spirituelles, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous voyez, Jésus est convaincu qu'il y a deux principes qui se côtoient. La sagesse de l'être religieux, qui voit Dieu et qui le considère comme son Père, c'est ce qui est dit là, et qui possède donc une sorte de filiation charnelle avec les choses spirituelles, sans pour autant vivre dans les réalités spirituelles. Et il y a la sagesse de l'être spirituel, qui est l'homme, qui est un enfant légitime de Dieu, et qui est nourri spirituellement par la révélation de Dieu. Voilà, donc c'est une longue introduction à un prochain message qui sera plus centré sur le chapitre 2 de 1 Corinthiens, où, et notamment... les versets 14 et 15 de je crois. Ou 15, non, 14 et 15, ou 15 et 16. Voilà. C'est par là. Voilà. 14 et 15. Donc pour la prochaine fois. Voilà, je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est un puits de connaissance activé par l'Esprit de Dieu en nous. Seigneur, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour te rendre gloire de la merveille de ta pensée et de ton plan pour chacune de nos vies et pour le monde. Et Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es notre Dieu et tu ne souhaites pas que nous restions dans l'ignorance des choses de la parole. Tu veux aussi, Seigneur, que nos cœurs soient droits devant toi et que nous sachions où nous en sommes. Tu veux que nous puissions, Seigneur, nous éprouver nous-mêmes afin de savoir si nous sommes dans la foi. Seigneur, il est vrai que tu fais une distinction entre les deux sagesses. Seigneur, je prie pour que dans cette assemblée, pour que partout où les croyants professent que tu es Dieu, pour que nous-mêmes, pour que moi-même, Seigneur, nous puissions avoir la capacité de questionner sans arrêt nos motivations et notre foi. Que, Seigneur, nous ne soyons pas obligés d'être repris comme l'apôtre Paul a dû reprendre à cause de divisions qui prennent naissance au sein d'une sagesse charnelle, dont il est dit ailleurs qu'elle est démoniaque aussi. Seigneur, je prie pour que tu nous protèges de l'ignorance spirituelle. Seigneur, que tu intensifies ton œuvre dans chacun des cœurs de nos enfants notamment. Seigneur, tous ceux qui sont entrés ou qui entrent dans l'Église et qui peuvent avoir l'impression de connaître et de savoir à cause des moments de leur présence ou des moments où ils osent prier. Seigneur, que tu puisses révéler ta vraie nature, que tu puisses leur montrer à Dieu, que tu es un Dieu de révélation. Tu n'es pas un Dieu qu'on apprend. Seigneur, tu es vivant. Tu es venu pour amener la vie dans nos ténèbres. Tu es venu pour amener, Seigneur, la vérité dans notre nature séduite qui est complètement faussée. Seigneur, nous voulons que ta parole agisse à l'intérieur de chacun de nos cœurs. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.